Les échos du silence assourdissant. Adam Badawi, chapitre 1, la vue depuis la tour de verre. À 60 ans, je suis parvenu à une conclusion pour le moins saisissante sur l'univers. Il ne fonctionne ni au destin, ni à la justice poétique, ni aux caprices des dieux. Il réagit strictement à la friction, à la résistance du vent et aux anomalies statistiques. Pour comprendre cela, nul besoin de s'asseoir au sommet d'une montagne en jouant de la guitare tout en fredonnant dans l'éther, il suffit d'observer les mets de New York de 1986. Ils sont la preuve ultime que le cosmos apprécie occasionnellement une bonne plaisanterie aux dépens de la physique. Ma propre existence, cependant, se comportait alors comme un solo de guitare endiablée, d'une rapidité impossible, légèrement désaccordée et totalement rétif à toute loi rythmique connue. Le dossier de mon classeur mental que je consulte le plus fréquemment, celui au bord effiloché et à l'odeur d'ozone, est l'hiver de ma 33e année. C'était une époque où le monde était collectivement obsédé par la sitcom Friends et ses 6 habitants photogéniques s'éclaboussant dans une fontaine de Greenwich Village. Tandis que l'Amérique se demandait si Ross et Rachel étaient en pause, j'étais occupé à essayer de déterminer si ma propre vie était une comédie télévisée à gros budget ou un documentaire brut sur un lion de l'Atlas très confus. Je me tenais dans ma suite d'angle 42e étage, le front pressé contre la vitre froide. Le verre glacial offrait un léger ancrage sensoriel contre le pouls incessant et rythmique des feux de signalisation aérienne rouge des tours voisines. Une pulsation cramoisie qui reflétait la douleur lourde et persistante derrière mes yeux. C'était un battement de cœur numérique et vacillant, bien plus honnête que le silence pressurisé et manufacturé du bureau. À travers la cloison vitrée, je voyais les jeunes cadres et les associés principaux orbiter autour de ma porte comme des lunes nerveuses en faible gravité. Ils parlaient d'un ton feutré et respectueux, leurs yeux dardés vers moi, tandis qu'ils parcouraient le couloir comme s'il s'agissait d'une clôture à haute tension. Pour eux, j'étais Adam Badawi, prodige de Wall Street, génie quantitatif et architecte des cieux algorithmiques, peu importe ce que cela signifie. Je veux dire vraiment. Dites-le avec assez de gravité et les gens commencent à vous tendre des stylos de luxe en hochant la tête, comme si vous veniez d'expliquer la couleur du mardi. Pour mon propre processeur, ces titres n'étaient que de la friture, des étiquettes superficielles qui n'avaient aucune prise réelle sur la mécanique brute de mon existence quotidienne. Intérieurement, je restais une âme marocaine hypersensible, un homme vibrant à une fréquence que le Niaise n'était pas équipé pour mesurer. Je me cachais derrière la résilience sur mesure de mes ancêtres, une fierté forgée dans les murs d'argile rouge, cuits au soleil de Marrakech, et la pierre, immuable et ancestrale du Haut-Atlas. Ils regardaient ma silhouette, et voyaient la pose profonde et sombre d'un titan de la finance. Ils supposaient que je contemplais les rendements mondiaux ou l'effondrement synchronisé d'une monnaie souveraine. En réalité, je luttais simplement pour trouver un état de grâce au sein d'un environnement sensoriel qui me semblait de plus en plus hostile, inutilement bruyant et sentant vaguement le tonnet brûler. Pour m'autoréguler et faire taire le vacarme interne, je fermais les yeux et tapotais doucement, de manière rythmique, le côté gauche de mon front, juste au-dessus du sourcil. C'est une décharge stimulatrice hautement efficace pour mon processeur neurodiverge, une technique d'ancrage nécessaire pour évacuer le voltage accumulé de la journée. Pourtant, pour les cadres qui m'observaient à travers la vitre, cela ne faisait que renforcer le mythe. Ils ne voyaient pas un homme essayant d'empêcher ces molécules de s'éparpiller, ils voyaient un magicien en transe profonde, calculant peut-être la racine carrée de demain. Je les laissais regarder. Il est bien plus facile de passer pour un génie que d'expliquer que l'air de la pièce ressemble à de la laine mouillée contre votre peau. Adam ? La voix était une fréquence tranchante qui fendait les parasites de ma concentration. Je l'ignorais, espérant qu'en restant assez immobile, je finirais par faire partie de l'architecture. Ici la Terre, lion de l'Atlas. Vous êtes là-dedans? Où avez-vous fini par monter au grand tableur céleste? Je décollais mon front de la vitre, laissant une trace de buée de ma respiration qui s'évanouit rapidement dans l'air sec et climatisé. Je saisis mon reflet dans la vitre sombre. Mes traits méditerranéens paraissaient remarquablement pâles sur le fond de l'hiver mordant de New York. Une peau claire, des cheveux bruns et des yeux marrons au regard calme et farouchement gardé. C'était un look qui suggérait une gravité naturelle et impériale, mais il lui manquait ce bronze marocain, parfait que le soleil de l'été m'octroie. La teinte qui rend mon lignage ancestral indéniable. Sans le soleil, je ressemblais à un fantôme très coûteux. Dans l'encadrement de la porte se tenait Carmen. Son titre était « secrétaire de direction ». Ce qui, en langage d'entreprise, signifie « la personne qui sait exactement où les corps sont enterrés » ce qu'ils portaient au moment des faits, et plus important encore, si leurs chaussures étaient assorties à leur ceinture. Aujourd'hui, elle était une vision de puissance architecturale dans un tailleur rayé Thierry Mugler aux épaules assez tranchantes pour couper du verre associé à des talons Manolo Blahnik qui claquaient contre le marbre, une signature rythmique stricte en 4/4 qui servait de rare stabilisateur externe pour mon pouls. Elle était ma Jeanne d'Arc de Brooklyn, une fille de Bensonhurst, une authentique italo-new-yorkaise possédant un instinct de la rue enveloppé dans du cachemire haut de gamme. Sa garde-robe changeait chaque mois. Un arsenal rotatif de minimalisme Jill Sander et de feu Gianni Versace, et elle était la seule personne à oser envahir ma solitude sans mandat ni sacrifice sanglant. « Vous embuez encore la vitre », nota-t-elle, s'avançant vers les étagères de la démarche assurée d'un mannequin de défilé, se dirigeant vers une scène de crime. « L'équipe de nettoyage va finir par nous facturer un supplément pour « traces de front ».« Ça sera déduit de votre bonus, Adam. »« Je régule ma température interne, Carmen », répondis-je sans me retourner. « Le système CVC de cet étage fluctue actuellement de 1,2 degré. » C'est inefficace. C'est une insulte au concept même de thermodynamique. Bien sûr que ça leste, soupira-t-elle, son ongle parfaitement manucuré tapotant l'étagère en verre qui ébritait mon camouflage culturel. Je dis mien, mais toute l'exposition était exclusivement l'œuvre de Carmen. Elle avait décrété qu'un titan de Wall Street avait besoin de hobbies pour paraître humain. Elle avait donc organisé un musée de l'effort athlétique que je considérais avec la méfiance que l'on réserve à une collection d'isotopes radioactifs. Pour mon esprit, les souvenirs sportifs sont une violation profonde de la science des matériaux. Un gant de baseball standard pèse exactement 14 onces. Son utilité structurelle est d'étendre la portée de la main humaine pour intercepter en toute sécurité une sphère recouverte de cuir se déplaçant à grande vitesse. L'ajout de 3 mg d'encre Sharpie bleue de Gary Carter n'altère pas mathématiquement sa capacité à attraper une balle, et pourtant, cela gonfle magiquement sa valeur financière de 4000%. C'est une illusion absurde. Une hallucination collective impliquant du cuir de vache et de l'encre. C'était une exposition impeccable. Une crosse de hockey signée par Marc Messier y reposait, montée selon un angle impitoyable de 45 degrés. Une balle de baseball signée par Derek Jeter se trouvait dans une rivalité tendue avec une autre signée par Mike Piazza. Mais le joyau de sa collection était l'ensemble des mets de 1986, ancré par ce gant de Gary Carter taché d'encre. « Vous savez, » soupira Carmen en regardant le gant. « Je devrais vraiment en libérer un. » Je pourrais le revendre, m'acheter un loft à Soho, et enfin cesser d'être l'otage du tunnel Lincoln et de ses diverses odeurs. Éloignez-vous de la vitre, Carmen, ordonnai-je calmement. Vos empreintes digitales constituent un dépôt biologique non autorisé sur une surface contrôlée. Oh, je t'en prie. Cette surface n'est contrôlée que parce que c'est moi qui la police, répliqua-t-elle, mais son regard s'attarda sur le cuir. D'ailleurs, vous n'aimez même pas le baseball. Vous regardez ce gant comme s'il s'agissait d'une boîte de pétri contenant une nouvelle souche de peste. Je regardais ce gant, et mon esprit effectua un retour brutal au 6e avril 1985. Lorsque je descendis pour la première fois du Haut Atlas vers les États-Unis ce printemps-là, mes connaissances en baseball étaient de zéro absolu. Pour mes yeux non initiés, cela semblait être une utilisation hautement inefficace du bois, du cuir et d'hommes adultes restant debout dans la terre, ajustant occasionnellement leurs pantalons avec une concentration profonde. Cette ignorance devint rapidement un handicap majeur dans mon cours de statistique à l'Institut Polytechnique de l'Université de New York, dispensé par un certain professeur David Saunders. David était un fan inconditionnel des mets. Un terme dont j'appris bientôt qu'il désignait une personne qui apprécie agressivement la souffrance et appelle cela une personnalité. Il était juif, bien que sa compréhension de son propre héritage fût si incroyablement ténue que moi, musulman pratiquant, me retrouvait fréquemment à jouer le rôle de son rabbin de fortune. Voyez-vous, ayant grandi en parlant arabe, apprendre l'hébreu à un jeune âge fut un jeu d'enfant. Ce sont des cousins linguistiques, deux branches du même arbre têtu. Je pouvais sans effort prononcer des mots comme katsotsra, en exécutant ce glorieux kahaj guttural et le TS acéré qui paralyse totalement la bouche américaine monolingue. David, ironiquement, était un assez bon saxophoniste, et je suis certain qu'il avait le talent nécessaire pour jouer magnifiquement de la trompette. Mais si vous lui demandiez de le prononcer dans la langue de ses ancêtres, il semblait s'étouffer avec un crouton particulièrement sec. Si vous voulez mon avis, la seule chose véritablement orthodoxe chez le professeur Sander était sa croisade zélée et fondamentaliste pour la titularisation universitaire et un salaire légèrement supérieur. Les classes du professeur Sanders étaient composées presque entièrement d'étudiants internationaux. Une pièce remplie de personnes ayant franchi des frontières géopolitiques complexes, maîtrisé trois langues et capable d'expliquer le fonctionnement interne d'un moteur à combustion dans un second dialecte, mais qui était alors prise en otage par la géométrie déconcertante d'un terrain de baseball. Chaque problème de probabilité assigné par David était une lettre d'amour statistique et frénétique au mai de 1986. Il arpentait le devant de la classe, transpirant d'une ferveur athlétique étrange, et aboyait des problèmes qui ressemblaient au code secret d'une secte que je n'avais pas rejointe. Si un batteur a une moyenne de bâton de 0,284 et affronte un lanceur gaucher avec une moyenne de points mérités de 3,12 en fin de 9e manche avec une moyenne de puissance de 0,490 en jeu, calculer la probabilité d'un ballon sacrifice. Allez, la saison en dépend. Nous le regardions dans un silence collectif catatonique. Pour mes camarades de Tokyo, Berlin et Paris, il aurait tout aussi bien pu nous demander de calculer le poids d'un fantôme en utilisant uniquement une flûte. Finalement, un courageux compatriote marocain de Casablanca, assis à ma gauche, se pencha sur mon bureau. Il regarda le professeur en nage, puis verrouilla ses yeux dans les miens, et murmura en darija de la rue. Mon processeur interne traduisit efficacement le dialecte. Qu'est-ce qu'il veut, ce minable? Je jure que je vais lui arranger le portrait pour qu'il arrête une fois pour toutes ces conneries de baseball. J'adressai un unique hochement de tête calculateur. L'opération était approuvée. Le Casablancais se leva immédiatement, son expression se transformant instantanément en un masque d'innocence polie et dévastatrice. « Monsieur, » demanda-t-il, son accent marocain prononcé fendant l'air pesant de la salle de classe, « je ne sais pas ce que c'est cette RA. Est-ce une époque historique, une mesure du temps, l'acronyme d'un groupe révolutionnaire politique ?» David s'arrêta net, ajusta ses lunettes avec le panache dramatique d'un homme sur le point de prononcer le sermon sur la montagne, et bomba le torse. Un RA, mon fils, c'est la moyenne de points mérités. C'est la mesure sacrée. C'est le battement de cœur du jeu. Lorsque nous fîmes collectivement remarquer qu'aucun d'entre nous ne distinguait un amorti d'un baguel. Et franchement, le baguel semblait bien plus solide structurellement. Il offrit ce joyau pédagogique. Le baseball est le passe-temps de l'Amérique. Ici, c'est l'Amérique. Faites avec. J'étais assis là, regardant mon cahier, calculant la probabilité statistique exacte. Environ 98,4%, que j'étais alors la seule personne dans la pièce à réaliser que le professeur était en fait fou. C'était un triomphe magnifique et spectaculaire de l'absurdité pure sur l'intention éducative. À l'automne 86, alors que David Sanders hyperventilait sur le miracle divin du match 6, je me contentais d'observer le fantôme dans la machine. J'étais assis calmement devant la télévision, calculant les angles géométriques précis, la vitesse et la probabilité aérodynamique exacte requises pour qu'une balle au sol à allure modérée passe parfaitement. Inévitablement, et humiliamment entre les jambes d'un homme nommé Bill Buckner. Pour tous les autres, c'était de la magie. Pour moi, c'était un triomphe magnifique et spectaculaire des mathématiques sur l'intention humaine. La gravité finit toujours par l'emporter. Adam ? La voix de Carmen brisa le flux mémoriel, les années 1980 se dissolvant pour laisser place au néon et à l'acier du présent. « Vous refaites ce truc ?» dit-elle en croisant les bras. « Celui où on dirait que vous calculez le poids exact d'une âme humaine ?» Ou que vous essayez de vous rappeler si vous avez laissé le gaz allumé en 1971. Lequel est-ce? Ni l'un ni l'autre, répondis-je en me détournant de la fenêtre. Je réfléchissais simplement à l'instabilité inhérente aux méthodes pédagogiques modernes et à l'inéluctabilité statistique de l'échec. Carmen ne recula pas. Au lieu de cela, elle afficha ce sourire malicieux spécifique qui précédait généralement une perturbation systémique de mon espace personnel. « Je ne veux pas vraiment vous voler vos balles de baseball, Adam, » dit-elle, sa voix, prenant une chaleur qui menaçait mon équilibre. « Je veux juste vivre près de vous à Manhattan, Al-Houb Diali. » Ce terme d'affection marocain, mon amour, me frappa comme un seau de soupe chaude en plein blizzard. Mon cerveau cala. Le prodige se déconnecta. Désireux de paraître comme un membre fonctionnel de la race humaine, j'exécutai une récupération de script social. Je suis un homme qui ne regarde pas la télévision et ne comprend rien aux tropes modernes. Et pourtant, par un cruel bug de la matrice, j'avais saisi un unique segment de la télévision par câble et décidé que ce serait mon nouveau pôle nord pour les interactions humaines. J'écartai les jambes, plissai les yeux jusqu'à ce que ma vision se trouble et déployai la manœuvre Joe Tribbiani avec l'intensité d'un échange à haute fréquence. How you doing? J'attendais une réaction positive de Carmen ou au moins un sourire. Carmen laissa échapper un gémissement sonore qui résonna probablement jusqu'aux ascenseurs. S'il vous plaît, arrêtez. Pour l'amour de tout ce qui est sacré, n'essayez pas de me charmer avec mon propre quartier, Badawi, lança-t-elle, bien que la chaleur de sa voix trahisse sa défense. Elle m'observa un long moment, puis avança la main et tapota doucement l'arête de mon nez comme pour réinitialiser un ordinateur planté. Je crois que votre processeur vient de faire une erreur 404, rit-elle. Réessayez. Mais cette fois, utilisez vos propres yeux. Je les préfère. Ils contiennent moins de sitcom. C'était une exécution hautement précise de la routine du voisin attachant, argumentai-je, les coins de ma bouche tressaillant vers le haut malgré mes efforts de stoïcisme. C'était un désastre, une erreur idédistée, répliqua-t-elle en pénétrant dans mon espace personnel pour lisser le revers de mon costume en laine anthracite. Alors que sa main s'attardait, elle se pencha, son nez s'approchant de ma mâchoire. Elle aspira une bouffée d'air brusque et désespérée. L'effluve du Chanel, Anteus Vintage, la frappa. Un mélange sombre et boisé de myrrhe et de sauge sclarée qui ancrait mes racines marocaines dans un océan d'air de bureau stérile. Si vous sentez encore meilleur que ça, je veux devoir faire payer un droit d'entrée aux femmes dans l'ascenseur juste pour se tenir près de vous, lança-t-elle, transformant son admiration subtile en une boutade rapide pour masquer l'accélération de son propre rythme cardiaque. Carmen doucement, l'avertis-je, sentant la friction familière d'une routine perturbée. « On dirait que vous passez une audition pour les affranchis. »« Je suis un ange, » corrigea-t-elle en pivotant avec fluidité. « Un ange envoyé par Dieu est l'unique raison pour laquelle vous n'êtes pas retourné au sous-sol de la conformité de la SEC à apporter des lattes à des gens incapables d'épeler algorithmes. Vous êtes un tyran, Carmen, notai-je. Je suis efficace, » corrigea-t-elle en se dirigeant vers la porte. « Maintenant, bouclez tout. J'ai libéré votre emploi du temps pour demain matin, vous allez chez le médecin pour un bilan de santé. Pas de discussion. » Mais ce soir, la voiture de fonction est en bas. Pour l'amour du ciel, n'essayez pas de contrôler l'itinéraire du chauffeur. Contentez-vous de vous asseoir dans le cuir, d'avoir l'air cher, et d'essayer de respirer pendant que je gère le reste du monde.